Bon, j'ai une remarque à propos du fait que tu disais qu'il faut que l'élève garde une trace de l'erreur qu'il a commis sur son cahier. Je ne vois pas l'utilité. Bon, je vois l'utilité c'est utile que les erreurs apparaissent, qu'on les laisse s'exprimer, qu'on fasse un débat entre les élèves pour avancer, mais pour qu'ils gardent une... Je ne sais pas, pour un chercheur, peut-être pour quelqu'un qui fait de la recherche derrière tout ça, il veut garder ses... Il veut travailler par la suite sur les erreurs faites en individuel ou faites en binôme. Oui, mais qu'un élève ait le savoir institutionnalisé et à côté, même s'il écrit avec une autre couleur, je ne vois pas l'utilité. Et je ne sais pas, j'ai compris lorsque tu as introduit ça, que c'était lorsque tu parlais du... tu décrivais le cahier de...
Cahier de charge.
Je ne vois pas là aussi. Et est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui va proposer... Peut-être que j'ai mal suivi. Est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui va proposer une activité de dire quelque part dans l'activité aux élèves de garder l'erreur sur le cahier, parce que ça ne ressort... C'est pas du domaine de l'activité, ça c'est de ce qu'on va faire avec l'activité après.
Oui, alors dans le cahier des charges, si on veut, il y a ce que l'on attend de l'activité, et avant de répondre au problème de garder la trace de l'erreur. Et puis l'idée aussi, c'est vrai qu'il y a des aspects, les deux dernières, on va dire la dernière diapo que j'ai montré sur le cahier des charges, c'est un peu préciser le contexte dans lequel cette activité va être utilisée, parce qu'il nous paraissait important de dire aux collègues, si on demande un peu tout ça dans l'activité, c'est parce que ça s'inscrit dans un contexte particulier d'utilisation de cette activité, dans une sorte de petite justification des raisons pour lesquelles on donnait ces critères dans le cahier des charges. C'est vrai que ça ne va pas apparaître dans le cahier des charges.
Je vais juste rajouter qu'une activité, ce que j'ai dit, mais je te crois tellement, je le répète, une activité isolée n'a pas de sens. Elle peut avoir des sens infinis suivant la façon dont elle est mise en œuvre. C'est pour ça que dans le cahier des charges, si on ne précise pas la contextualisation et la forme de contrat d'une certaine manière, enfin la façon de la gestion de la classe, si vous voulez, suivant la gestion de la classe, une même activité aura des fonctions complètement différentes et aura un sens complètement différent pour l'élève. Donc si on ne le précise pas, on ne construit pas une partie d'enseignement. Voilà.
Sur l'erreur.
Oui, sur l'erreur. Tu veux que je réponde sur l'erreur ?
Je vais donner une autre réponse. Enfin, vas-y, donne la réponse.
Donc,
de
sur
la
l'erreur. Là, j'ai pas répondu sur l'erreur. Sur le fait qu'on garde la trace écrite. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments. Il y a des arguments vraiment très, très forts. Ce qu'a dit Didier, c'est-à-dire que de toutes les façons, les idées des élèves, je ne parle pas d'erreurs de calcul, je parle de points de vue qui sont fondamentalement ancrés chez les élèves. Ces points de vue-là, qu'ils soient écrits ou pas, ils resteront un point de vue très fréquemment utilisé par l'élève dans sa vie, de toutes les façons. Le prof le veut ou pas, c'est une donnée de l'étude actuelle de tout ce qui se passe chez le fonctionnement des personnes. Donc, autant prendre en charge cette donnée que nous donnent les chercheurs en disant ça ne s'effacera pas. Et la seule façon, de notre point de vue, d'aider l'élève à apprendre la physique alors qu'il a un autre point de vue disponible qui sera beaucoup plus souvent utilisé et qu'il ait, d'une certaine manière, une métacognition par rapport à cette erreur, c'est-à-dire à cette erreur du point de vue de la physique, pas du point de vue, un autre point de vue. Donc, quand il a une proposition qui est erronée pour la physique, autant qu'il prenne conscience que c'est erroné pour la physique. Et du coup, le fait d'avoir sur son cahier quelque chose d'écrit et de barré, c'est pas qu'il y a un statut de quelque chose qui n'est pas correct pour la physique, à ce moment-là, ça peut l'aider à établir justement les raisons pour lesquelles... à se remémoriser les raisons pour lesquelles cette approche n'est pas pertinente pour la physique.
Et dans son apprentissage, les élèves, parfois, n'ont pas envie de passer beaucoup de temps à travailler, et s'ils voient des activités où il n'y a écrit que des choses justes, ils ont très vite oublié qu'ils avaient fait faux à cette activité une semaine avant. S'ils voient des choses rayées, ils ont peut-être plus envie d'aller relire en disant « tiens, je m'étais trompé ». S'ils ne le voient pas rayé, s'ils ne le voient pas écrit, ils ne se souviennent pas qu'ils s'étaient trompés, à peu près sûr. Enfin, il y a quelques activités qui vont être marquantes, qui vont se souvenir, mais ils ne vont pas se souvenir pour un certain nombre. Et ils vont dire « bon, ça, j'ai su faire ». C'est pas la peine que je me repenche dessus. Donc, il faut vraiment leur inciter sur le fait que c'est important qu'ils aient conscience de ça, qu'ils se sont trompés, qu'il faut le retravailler, parce qu'il y a des choses lourdes derrière et que ça va ressortir. Ce que dit André, ça va ressortir. S'ils ne retravaillent pas, ils ne risquent pas de se le remémorer. Et donc, voilà.
Donc, par rapport à votre façon de présenter les activités d'enseignement, je crois qu'on a beaucoup de ressemblances par rapport à ce qu'on fait chez nous, dans la formation de nos enseignants, oui, et dans les séances où on anime pour les amener à concevoir des activités d'enseignement dans leur classe. Bon, c'est vrai qu'on a à peu près beaucoup de choses de ressemblance, parce que bon, ça se comprend un peu, parce que la plupart de nos didacticiens du département ont été formés à l'école française. La plupart ont été soit formés à Montpellier, ou bien certains ont travaillé avec beaucoup de didacticiens de chez vous. Mais il y a certaines différences. D'abord, le cours magistral, chez nous, on ne s'en passe pas. Quel que soit le niveau, on peut rentrer par une activité, gérer l'activité, mettre en place les nouvelles notions à enseigner. Mais je crois qu'en général, on termine toujours par une partie de cours magistral où on demande aux élèves de noter l'institutionnalisation de la chose dans le cahier de cours. Parce que nous distinguons le cahier de cours et le cahier d'activité. Ça résout le problème que posait l'autre collègue tout à l'heure. Quand on a certaines activités qui sont des activités de mise en place de nouveaux savoirs, on peut les faire dans le cahier de cours. On reste les résultats dans le cahier de cours et on continue, on met après les théorèmes, définitions, autres dans le cahier. Mais si c'est certaines activités de recherche, par exemple pour établir certaines propriétés dans le chapitre, je pense au chapitre en cinquième où on fait les paragraphes, on veut faire un cours sur les propriétés des paragraphes. On propose une activité pour faire découvrir aux élèves que si un quadrilatère est un paragraphe, alors propriété P1, P2. Donc, on donne des activités pour leur découvrir ça dans le cahier d'activité. Après, maintenant, quand on arrive à terminer l'activité, faire l'exploitation, la mise en commun de tous les résultats, le prof ne peut pas se passer de revenir dans le cahier de cours pour revenir les définitions, énoncer les propriétés. C'est un peu la différence que j'entrevois par rapport à votre... Nous, on n'attend pas seulement terminal pour que le cours magistral soit fait, parce qu'il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de volume de programme. D'accord. Il y a aussi le fait que certaines façons de gérer les activités posent problème chez nous avec les effectifs que nous avons. Parce que quand on est dans une classe de 5e de 70-80 élèves, si on veut mener une activité dans le canevas que vous avez désigné, ça pose problème. Donc nous avons effectivement emprunté toutes ces méthodes, mais on a été obligé de les adapter à nos situations de classe. Et c'est ça la difficulté que nous avons, nous, au département. Nous avons des repères sur certaines choses à faire, mais il faut les adapter à la réalité de classe. La réalité de classe, c'est que d'abord, on a des effectifs pléthoriques. Dans d'autres cas, on a parlé là vendredi, beaucoup d'enseignants qui sont des vacatés et dont le niveau académique n'est pas assez poussé. Vous voyez, donc tout ça crée beaucoup de problèmes. Mais toujours est-il que les idées générales que vous avez dégagées, en fait, c'est comme ça que nous gérons nos activités. Mais il y a cet aspect-là. L'aspect du cours magistral dont on ne peut pas se passer et l'impact des effectifs pléthoriques qui nous obligent à trouver des stratégies adéquates pour animer certaines activités, pour mener certaines activités d'enseignement en classe selon le niveau et selon le nombre d'élèves de la classe.
Juste pour vous répondre, alors à part les effectifs, évidemment déjà nous, pour essayer de convaincre des collègues qui ont 35 élèves de faire ça, c'est difficile, évidemment si vous en avez 70, on imagine bien la difficulté. Par Par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait une si grosse différence que ça avec ce que vous appelez le cours magistral, parce que finalement, le cours magistral, on pourrait très bien imaginer que la partie qui, pour nous, qu'on distribue sous forme de papier, qui est les connaissances de la physique, ce que la physique dit sur ce sujet, soit finalement écrit au tableau. Et donc, ça revient à faire un petit cours magistral. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on nous reproche des fois, d'être des très gros consommateurs de papier, et tous les profs n'ont pas, dans leur lycée ou leur collège, la possibilité de faire énormément de photocopies, donc, et qui finalement le font sous forme d'un cours qui peut être un cours magistral, un petit cours magistral. Donc là-dessus, on est sans doute assez peu différent. C'est la forme qui est différente, mais pas le...
Non, je pense que dans notre proposition, ce qu'on a appelé phase d'institutionnalisation, qui est pour nous absolument cruciale et tout à fait explicite et supportée par... aidée par un texte qui, pour nous, prend cette forme-là, mais aussi, bien sûr, verbalement, quand le prof, oralement, quand le prof en parle. Et ça fait aussi écho à ce que disaient ce matin les collègues de maths, c'est-à-dire qu'il y a des moments, alors qui sont soit l'institutionnalisation, soit des moments de débat, qui vont servir de situation de référence pour l'histoire de la classe. Et ça, c'est des points qui sont aussi extrêmement importants. Il y a des moments qui vont dire « Ah, mais ça, on a fait ça », et tous les élèves s'en rappellent.
Par contre, au niveau de la formation des enseignants, nous avons une autre méthode de gestion de ces activités-là. Je crois avoir proposé là-bas une activité qu'on fait avec des professeurs du secondaire pour leur proposer une stratégie de mise en œuvre d'une activité qu'ils vont réadapter après en classe devant leurs élèves. Donc là, c'est des activités de formation. Donc dans ce cas-là, en général, ça ne se fait pas de la même manière. Là, on est plus proche de votre modèle, hein, à ce niveau, qu'avec le professeur dans sa classe de collège ou de lycée. Là, on donne une activité, on propose, on laisse... parce que là, c'est le groupe de 5 et 10, donc on est dans vos conditions. Là, je crois qu'on épouse vraiment les stratégies que vous mettez en œuvre pour, dans le cadre de votre exposé là.
J'avais deux questions. J'ai renoncé à une provisoirement pour continuer sur ce débat-là. Et ce ne sera pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de nombre d'élèves. Et... moi, j'ai quand même de mon expérience des observations et puis des données que j'ai, ce type, en tout cas en mathématiques, ce type de leçon, hein, le type de leçon sur lequel on, le type d'activité sur lequel on discute depuis le début, est minoritaire. Est minoritaire dans tant parmi les stagiaires que parmi les enseignants. Le cours standard la leçon standard de mathématiques au secondaire inférieur, c'est le collège, on l'appelle secondaire inférieur en Suisse, c'est un mélange d'exercices, d'activités, de présentations qui sont le plus souvent de l'ostension déguisée et de petites institutionnalisations. Et plus on monte dans les degrés, c'est-à-dire qu'on va vers le secondaire supérieur, plus il y a de cours magistral, en tout cas en mathématiques, et en tout cas de ce que je connais, mais j'ai quand même connais pas mal de leçons, pas mal de qui sont faites. Donc il y a une minorité de personnes qui fonctionnent différemment. Alors, ceci dit... quel type alors il y a effectivement il y a une question, est-ce que d'axer la formation sur l'étude de situation d'entrée dans un concept et qui soit problématique, qui réponde à tous les critères de problématisation avec débat, avec prise en compte des erreurs des élèves. Est-ce que ça peut avoir un effet, ou est-ce qu'il faut également travailler la problématisation, mais à l'intérieur des leçons telles que les gens les donnent finalement habituellement la plupart du temps, hein, c'est une question que je pose par rapport au travail à faire en formation qui impliquerait de travailler également un autre aspect à travers l'analyse de pratique. Et là, personnellement, j'ai quelques idées et on a travaillé sur cet aspect-là.
Je peux réagir comme je peux. Hein. Ce que vous posez en fait comme question, si je la retraduis, c'est que ce qu'on propose est trop loin de la pratique des profs et donc, je dirais, la distance, la zone proxima, si on peut dire comme ça, est beaucoup trop grande et du coup, ça serait une formation inefficace. C'est tout à fait une vraie question. Alors, il me semble que il y a ce qu'on a proposé là, l'enseignement par activité, mais il y a aussi d'autres points qui peuvent être complètement compatibles, je dirais, avec quelle que soit la pratique du prof, qui par exemple, nous, ce qu'on appelait ça en disant au prof, le sens des mots. Par exemple, qu'il soit fasse un cours magistral ou qu'il ne le fasse pas, ou qu'il fasse des activités, dans son enseignement, un prof de physique, nous semble-t-il, doit être extrêmement vigilant aux mots qu'il utilise pour désigner des concepts ou des objets événements. Et là, c'est transversal à tout le monde. Dire qu'il y a des éléments de formation qui ne sont pas complètement dépendants du type de gestion de classe. Et là, je pense qu'en tant que formateur, il faudrait que l'on réfléchisse peut-être plus à des fonctionnements de prof qui nous semblent absolument indispensables, quelle que soit sa gestion de classe. Le sens des mots, des petits moments de débat, ça dépend d'une gestion de classe, mais bon, à voir. Prendre en compte les idées initiales, pareil, ça implique pas une certaine gestion de classe. Ça peut être du dialogique non interactif, si je puis prendre cette formulation. Ça veut dire que le prof prend en charge dans sa formulation les idées des élèves, mais demande pas de la discussion entre les profs. Bref, tout ça pour dire qu'il me semble, comme formateur, on doit vraiment réfléchir à ce qu'on dit typiquement d'une gestion de classe très particulière et ce qui est beaucoup moins dépendant et qui est pourtant tout à fait essentiel.
Certainement un peu plus courte, c'était en termes d'organisation. Il y a un choix qui a été fait en fait sur toutes les activités d'organisation structurée. Et moi, je me posais la question par rapport à l'enjeu. Est-ce qu'il était toujours explicité aux élèves ou est-ce que parfois il était implicite à l'activité finalement pour peut-être garder, du moins justement garder de l'enjeu vis-à-vis des élèves. Si on l'explicite peut-être systématiquement, est-ce qu'on ne perd pas un petit peu de...
On essaye quand même de l'expliciter le plus systématiquement.
Ça dépend. Il y a certains... Oui, expliciter l'enjeu, si possible.
Peut-être pas tous les enjeux.
Il y a des enjeux qui peuvent être compris par les élèves qu'à la fin.
D'accord. On n'explicite pas tous les enjeux, mais on essaie d'expliciter un enjeu systématiquement. Et d'ailleurs, quand on prend cette habitude, le jour où vous l'oubliez... Les élèves ne vous ratent pas. Et ils font un truc et ils sont en train de réfléchir à quelque chose. Et puis au bout d'un quart d'heure, ils vous disent « Mais pourquoi on fait ça ?» Voilà. Et « Ah bah oui, tiens, j'ai dans la bataille au début de cours, là, j'ai oublié de le dire. » Voilà. Alors on n'explicite pas tous les enjeux, par contre. C'est vrai. On n'explicite que certains.